des livres plein les oreilles. Et voilà, nous y sommes à cette nouvelle saison qui commence, une saison de l'émission Des livres plein les oreilles, présentée, réalisée et animée toujours pour vous par Clotilde Seille. Et cette fois-ci, cette année, eh bien nous aurons 90 minutes pour nous mettre des livres plein les oreilles. Alors, qu'est-ce qu'on aura dans cette émission-là? Des nouvelles parutions nées dans les studios de Vues et Voix, bien sûr, seront à l'honneur, mais je veux que vous sachiez tout ce qui sort, tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit, tout ce qui se lit dans le monde du livre audio. Alors, on va aussi sortir de nos frontières, puisque vous le savez, dans le domaine du livre audio, tout est accessible via le net. Vous entendrez aussi des extraits de classiques incontournables en livre audio. Je pense à La Belle et la Bête aujourd'hui même ou encore Alice au Pays des Merveilles. Et puis cette année, nous irons à la rencontre d'artisans, d'utilisateurs de livres audio. Je pense aux éditeurs, aux lecteurs, aux auditeurs. Et bien sûr, les auteurs seront à l'honneur. Aujourd'hui d'ailleurs, un entretien avec deux auteurs québécois. Louise Forestier, qui a écrit et lu pour vous Forestier selon Louise, et Yves Beauchamp, qui nous arrive avec Les Empocheurs en livre audio. C'est son petit dernier, on est très très loin du matou. Et puis une première pour Marie-Ève Groux, dont ce sera la première chronique et qui portera sur La Belle et la Bête. Ah, oh, ça en fait des livres audio. On va donc ouvrir le bal avec Louise Forestier. Je vous propose, avant même qu'on lui dise bonjour et que je m'entretienne avec elle, un extrait du livre qu'elle a écrit et lu pour vous. Ça s'appelle Forestier selon Louise.
J'ai 4 ans sur la 4e rue, à Shawinigan. Je tourne le coin de la ruelle pour comprendre trop tard que la pente est très à pic. Ma tricyclette, je voulais une bicyclette. J'ai eu un tricycle, alors je l'ai nommé ma tricyclette. Donc, ma tricyclette s'emballe et moi je m'énerve. Ma jupe m'aveugle, retroussée par le vent, ça crie autour de moi. « Elle va se faire écraser !» D'une main, je repousse ma jupe. Je perds le contrôle. J'en perds les pédales. Je vois les autos sur le boulevard, en bas. Mes lunettes s'envolent, arrachées par l'accélération, et je comprends que je suis en danger. La peur s'imprime à tout jamais dans mon système nerveux. Mes synapses se dérèglent. Je crie « Nénette ! Nénette !» C'est le nom de ma poupée. Je l'aime tellement. Soudain, deux mains me soulèvent de terre et je vois ma tricyclette se faire écraser sous mes yeux. Je pleure ou je hurle ou je ne fais rien, je ne sais plus. Mes parents sont au travail et j'ai échappé à la surveillance de ma grand-mère Alice.
Bonjour Louise Forestier.
Bonjour madame.
Alors vous savez que les gens qui ont d'abord acheté ce livre audio, qui vous ont entendu le lire, c'est votre histoire à vous, eh bien ils sont peut-être en train aussi d'écouter cette entrevue qu'on va leur offrir un petit peu comme un bonus.
Absolument.
Et puis cette entrevue-là sera également disponible sur le site de Canal M parce qu'elle sera diffusée dans le cadre de l'émission Des livres plein les oreilles, qui est la seule émission.
Ouais.
Louise, et j'en suis très fière, à ne traiter que de livres audio.
Dépêchez-vous parce qu'il va y en avoir d'autres bientôt.
Oui, mais pour le moment, c'est la nôtre. C'est... Louise Forestier, oui. Ce livre donc, que vous venez de le finir, on l'a offert maintenant au public. Forestier, selon Louise. Et puis il y a en sous-titre, alors d'ailleurs c'est écrit ouais. Aseptique, j'avais du mal à le lire à la main.
Je
la
peux vôtre. Vous le dire, c'est quoi?
Oui.
Pas de choker,
oui.
Pas de collier.
Alors quoi, Louise Forestier, c'est un petit chien fou
c'est
en liberté?
C'est un chien, oui.
Ah bon?
Si j'avais été un animal, ça m'aurait rien fait d'être... je suis pas un lézard, mais c'est pas mon tempérament. Je suis plus excitée comme un... Je suis un chien.
Chien fou?
Des fois.
Pas toujours.
Ben, je suis une chienne, en fait. Vous voyez comme le mot chienne
c'est
péjoratif, oui. Parce qu'on emploie beaucoup.
Non, oui.
Vous voulez savoir mes c'est opinions vrai. Féministes, la voici en premier, ouais. Après on n'en parle plus. Alors, on se sert beaucoup, beaucoup de noms d'animaux femelles pour
absolument.
Insulter les femmes.
Ah oui, c'est terrible.
Alors,
hein?
Je suis heureuse de vous annoncer que je suis une chienne.
Ouais. Une chienne folle.
Une chienne des fois pas folle.
Ouais. Encore là, on dirait fofolle, parce que folle,
ouais.
Franchement,
ouais,
folle, elle est bonne à enfermer.
Oui, c'est ça. Non,
c'est
non,
terrible.
Fofolle, non. Une chienne de bonne humeur. Une de belle humeur.
De belle humeur. Parce que, évidemment, si quelqu'un l'ignore, mais évidemment, les gens qui ont écouté maintenant votre livre
ils
le savent.
Mon nom, mon vrai nom, comme votre... on dit. Mais mon vrai nom, c'est Forestier. C'est une autre vie. C'est un nom de famille.
Oui.
Forestier, c'est mon nom de femme.
Et une famille qui n'était pas forcément, de belle humeur tout le temps, d'ailleurs.
Ouais, mais ça, les histoires de famille, qui n'en a pas.
Qui n'en a pas, c'est sûr. C'est,
dans les familles, on retrouve, en général, les plus belles tragédies et les plus belles histoires d'amour.
Absolument.
Ça, ouais. On dirait que l'un ne va pas
sans l'autre. Louise Forestier, pourquoi cette idée de tiroir, de commode, ça vous est venu comment?
Ah, c'est fou, ça m'est venu à la fin de l'écriture. On m'a dit, mais il faut un prologue, ma chérie. Oh non. Et là, je vais souvent piger dans mon ordi. J'ai plein de textes qui n'ont pas servi. Et j'ai commencé à lire, à aller voir des textes qui avaient servi à rien. Et je trouve cette chanson que j'avais faite, qui s'appelle La commode, ou L'incommode, ça dépend des jours. Mais j'ai dit, c'est génial. Et je lis ça. Ben, j'ai dit, c'est ça. Ça ne sera pas des chapitres, ça va être des tiroirs. Puis tu sais, souvent dans la vie, on dit, on tourne la page, ben moi, je fermais le tiroir.
Est-ce que c'était le bazar dans chacun des tiroirs?
Il y a des tiroirs très ordonnés, il y a des tiroirs, c'est absolument le bordel total. Il y a des tiroirs vides et il y a des tiroirs qui débordent. Et il y a des faux tiroirs.
Des tiroirs secrets?
Cachés.
Non.
Encore.
Louise Forestier, il y a très rapidement dans le livre, vous écrivez que vous carburez au stress. C'est votre expression. Mais le stress, c'est un frein, c'est pas un moteur.
Ah non, c'est un moteur, le stress. Quand t'es un artiste, on appelle ça le trac, on appelle ça l'insécurité, on appelle ça des caractères... qui déborde un peu.
Comme les tiroirs.
Comme les tiroirs. Le stress, c'est ne pas savoir ce que tu vas faire dans 6 mois, même la semaine d'après. Ne pas savoir quand la dernière chanson que tu viens d'écrire va vraiment intéresser les gens. Le stress, c'est d'être soi-même un produit, comme on dit, si bien dans l'industrie musicale. Alors, est-ce que mon produit va plaire? Mon produit va-t-il se vendre? Le stress, c'est est-ce que je suis encore capable d'écrire? Le stress, c'est mon Dieu, ma voix, qu'est-ce qui se passe? C'est, et ma vie de famille qui fout le camp? Et mon enfant que je vois passer? Et les chums qui veulent pas se faire appeler Madame Forestier? Et etc.
Avez-vous eu... Ou avez-vous encore le stress que ce livre-là n'intéresse personne?
Pas du tout. Je n'ai plus de stress depuis que j'ai décidé, après 52 ans de métier, de ne choisir que ce qui allait me faire triper. Alors, je parlais avec une amie hier que j'aime beaucoup, France Castel. Bonjour, France. Et...
Grande amie aussi.
Oui. Alors, je parlais avec elle, puis elle dit, as-tu des projets? J'ai dit, c'est un mot que je ne veux plus entendre. Je ne suis plus capable d'entendre. J'ai dit, France, maintenant, je n'ai pas de projet. J'ai des tripes. Elle dit, waouh, je note.
Oui, ça a dû lui plaire.
J'ai dit, moi, je ne fais plus rien qui ne me fait pas vraiment triper ou je sens que je suis parfaitement à l'aise. Autant quand on est jeune, il faut essayer de se sortir de sa zone de confort pour avancer, se donner des coups de pied quelque part pour se dégourdir, pour se réveiller. Autant, à un certain âge, tu as le droit d'avoir un gros fauteuil rembourré, peut-être même une chaise berçante à côté, ou bien dans des bons souliers de marche. Et voilà.
Oui, oui. Est-ce que vous avez trippé beaucoup? en lisant à haute voix ce livre? Est-ce que, parce j'ai que c'est adoré, une nouvelle expérience.
Ouais, ça, là, j'ai adoré ça. Ouais. J'ai adoré faire ça. Je pensais pas... Les premières lectures ont été... Ben, j'étais pas stressée, mais je disais, coudonc, qu'est-ce que ça va donner? Ouais. Puis là, à un moment donné, après la première session, quand je suis revenue pour la deuxième session, j'ai dit à Mathieu, ce merveilleux Mathieu, qui travaille comme un tilleul.
Oui.
Alors, ce merveilleux Mathieu, j'ai dit, fais-moi écouter un petit bout. Et j'ai écouté, peut-être une demi-page. J'ai dit, c'est correct, c'est ça, c'est le ton qu'il faut. Parce qu'il faut que tu trouves le ton. C'est ni du théâtre.
Non.
Ni une conférence.
Non, surtout pas.
C'est quoi exactement? Mmh. C'est de la radio, Féfille. Mmh. De la radio.
J'exulte sur mon banc d'église. Je sais que dans quelques minutes, je serai dans l'allée centrale. Bien sûr, mon cœur bat très vite, mais ça n'est pas douloureux. J'ai chaud partout dans mon corps. Je suis fiévreuse, sans doute. Toute cette adrénaline m'allume, comme le plus gros lampion de l'église. Je ne me pose pas de questions sur ma performance, à savoir si je serai bonne ou non. Je ne suis pas encore une professionnelle. Aucun trac ne vient cacher mon plaisir, comme ce sera le cas plus tard dans ma carrière. Toute ma vie, je rechercherai ces sensations intenses, le stress et la jouissance entremêlées. Le paradoxe est mon ordinaire, mais le ménage était celui des femmes à la maison pendant les années 40. Pour les uns, il y a le sport extrême, pour moi, il y a le stress extrême. C'est pourquoi je dis « je n'ai pas de mémoire, je n'ai que de l'imagination ». Et voilà que je suis aux prises avec cette peur de la vitesse et ce besoin d'extase dans les tripes. Ces sensations extrêmes, je les trouverai en chantant.
Pourquoi chanter quand il y a tant à faire? Pourquoi niaiser devant ce beau parterre?
J'aime tellement la radio parce que j'aime beaucoup la voix.
Oui,
c'est tout.
Vous en avez fait aussi d'ailleurs de la radio.
Et j'ai adoré ça.
Hein? Ouais. Avez... Qu'est-ce que vous venez d'ailleurs? Vous avez été comédienne, chroniqueuse, donc animatrice, metteur en scène,
ouais.
coach en chanson à Petite Vallée,
ouais.
Professeur.
Ouais.
Ouais. Ça en fait. Et maintenant lectrice.
Auteur.
Auteur, bien évidemment. Ouais. C'est sûr. C'est sûr. Vous avez fait du théâtre, de la comédie musicale.
Oui.
Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Est-ce qu'il y a un personnage, par exemple? Parce qu'à un moment donné, vous avez une très jolie formule sur des phrases. Sur des femmes, pardon, qui étaient toutes des femmes déchirées, vous dites, des femmes en mille morceaux.
Mm-hmm.
Est-ce qu'il y a une femme en mille morceaux? Bon, vous avez joué Irma, vous avez
c'est
joué...
Toutes des, ça,
ce sont toutes...
C'est des femmes en mille morceaux, toutes mes waitresses, mais elles ne sont pas nécessairement toutes en mille morceaux. La petite, là, dans Demain matin, Montréal matin, qui est waitress... dans sa petite ville, qui veut devenir une star comme sa sœur, c'est sûr qu'elle se fait donner une gifle par sa sœur, mais elle a un front de bœuf extraordinaire. Moi, je ne l'ai jamais sentie comme une victime. Je l'ai sentie comme une battante.
Si je faisais une rétrospective de vous, après avoir lu ce bouquin, non seulement lu, mais entendu aussi...
Laissez-vous aller, madame.
Je me dirais, OK, si par exemple on me demandait une affiche, qu'est-ce que je mettrais sur cette affiche-là? Alors, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Et vous allez me dire s'il manque des choses, et beaucoup, et lesquelles. Alors, je mettrais des ombres en filigrane, des personnalités comme Robert Charlebois, Yvon Deschamps, bien sûr, Mouf. Je mettrais les patriotes et le 4 sous. Je mettrais comme les façades.
Le patriote.
Le patriote, oui, c'est ça, oui.
Bah oui, le patriote.
Je mettrais le patriote, oui, j'ai dit les patriotes, et le 4 sous.
Oui.
Bon, je mettrais les chums.
Les photos de mes...
Non, en silhouette.
Non,
je mettrais des silhouettes, même pas, ok.
Non.
Je mettrais Alexis, la silhouette d'Alexis.
Avec
qui vous avez même fait des chansons, quand même.
Mais avec sa permission.
Mon Dieu, oui.
Ah, tu n'utilises pas un enfant?
Non.
Non.
Je mettrais une petite robe verte.
Ah oui.
Oui, hein?
Ah oui.
Définitivement.
Ah oui.
Un piano.
Ah, c'est sûr.
Une serveuse automate.
Oui,
préférence.
Oui, absolument.
Je mettrais un élégant peut-être en...
Oui, oui, oui.
Essentiel,
absolument,
hein.
Absolument. La poésie, oui.
Je mettrais le café de la place.
Oui. Quel beau souvenir de 20 personnages en quête d'une chanteuse.
Voilà.
Dans les années, au début des années 90, je crois. Oui. Oui.
Ça a été un gros, gros succès.
Oui.
Ici. Ça a été aussi un gros succès en France, au théâtre des Diseurs, mais ça a été tout d'un coup, badingue, la catastrophe.
C'est ça, j'en parle dans,
Dans le bouquin.
Dans le bouquin. Mais écoutez, c'est, le temps que ça a été, que ça a marché, c'était exceptionnel.
Mais Louise Forestier, j'ai l'impression que votre vie, remarquez, vous allez peut-être me rétorquer à juste titre que c'est la vie de finalement tout le monde, mais il y a tellement de rebondissements, il y a tellement de fois où vous avez cru à des choses fantastiques qui allaient se dérouler, puis tout d'un coup, ça ne se passait pas du tout comme vous l'espériez, et le contraire.
Et le contraire m'arrivait alors que j'attendais rien, oui.
Exactement.
Ben oui. Alors,
bon, on ne peut pas ne pas évoquer l'hostie de show. Merci à Paul Buissonneau, parce que c'est lui qui un jour vous a dit...
Votre studio, pouvez-vous vous le mettre là où je pense?
Alors, c'est ça, l'hostitcho, moi je me disais, parce qu'en ce moment, on a travaillé aussi sur le livre, sur les belles-sœurs, auquel vous avez d'ailleurs contribué très généreusement, et je vous en remercie. Et je me disais, c'est incroyable que cette année-là, en France, c'était les pavés qui revolaient, ici c'était les idées.
Ouais,
explosait
c'est vrai.
Culturellement,
ouais,
tout d'un coup, dans l'identité québécoise en plus.
Oui, tout à fait.
Aussi bien dans l'hostitcho que dans les belles-sœurs. Et dans les deux cas... Il y en avait qui étaient pour, mais il y en avait qui étaient contre. Dans les deux cas, on a vidé des salles et on les a remplies.
Oui, c'est l'aboutissement de... Ben, les Français ont fait leur révolution en quelle année déjà?
En 1789.
89, c'est ce que j'allais dire en 89. En 1789. Et nous, on a fait une, en tout cas, en 1968. Alors, eux autres, ils ont fait une révolution... ils s'ennuyaient, ça faisait 200 ans qu'ils pitchaient pas des roches. et nous, on a fait une révolution, mais douce. Parce que c'est l'envers de notre plus grand défaut que je dirais qu'on est pas mal peureux, merci. Mais en même temps, cette peur nous a jusqu'ici, parce que le monde change tellement vite, que ça nous a évité des choses trop exagérées, trop violentes. Notre peur nous a protégés. Puis on avait peur d'aller en enfer encore. Hmm. Le bon Dieu était pas loin. Tu sais, il y avait tout ça. Il y a toute cette espèce de restant. Mais en même temps, dans cette éducation-là qu'on a eue, il y a eu tellement de choses qui ont été expliquées aux enfants... ce que j'appellerais un savoir-vivre formidable, qui nous a été souvent transmis par des professeurs et laïcs et religieux. Je dis bien et laïcs et religieux. J'aurais pas pu me passer des deux, moi. Moi, j'aimais les religieuses parce qu'il y avait des grandes robes. Puis quand tu marchais, ça faisait chichlink, chichlank. J'aimais les uniformes. J'aimais le décorum. J'aimais les cantiques. C'est tout mon... ma jeunesse que j'ai vécue, et tout à coup, j'ai eu des professeurs laïcs à cette époque-là aussi. Puis c'était formidable.
Mais oui.
J'étais contente.
Justement, parlant de la jeunesse, permettez que je rebondisse. Quand j'ai préparé cette émission-là et cette entrevue-là, j'ai écrit elle étonne dans ce décor. Je parle de la petite enfance. Et j'ai écrit elle étonne, elle détonne et elle déconne. Parce que je trouve que c'était vraiment ça. Entre autres, un truc qui m'a... Bon, vous aimez les escaliers.
Oui. Oui, quelle belle métaphore. C'est une métaphore extraordinaire.
Ben oui.
Ben oui. Cet escalier dont Michel Tremblay dit à propos de la gloire, c'est un escalier qu'on monte à pied puis qu'on descend en bicycle.
Oui.
Alors déjà, sans connaître cette phrase célèbre, toute petite, moi, les escaliers m'impressionnaient. Pourquoi? Parce que mes amis, plus riches que nous, vivaient dans des maisons à deux étages et qui avaient un escalier. Ça me fascinait. Ensuite, dans les maisons de campagne, Il y avait aussi des escaliers.
Puis c'est vrai que c'est une métaphore, parce que l'escalier, ça permet
c'est pour
de s'élever.
Aller plus haut.
Mais quand on se casse la gueule, on se casse la gueule.
Ben,
et on se fait mal.
Si on se permet d'aller haut, faut comprendre que on va aller bas aussi. Si tu veux pas vivre les hauts, tu vis rien. Tu vis le milieu, puis c'est plat.
Et Louise Forestier, elle en a connu des hauts et des bas.
Oui, mais...
Parce qu'on vous voit toujours, oui, mais Louise... Moi, l'image que j'ai de vous, bon, je vous ai quand même côtoyé un petit peu à droite et à gauche, que ce soit à la radio, tout ça. Et j'ai toujours vu l'image d'une femme qui parle fort, qui rit fort, qui est en vie.
Mais c'est ça.
Mais on sent derrière, écoutez, ça n'a pas toujours été rose quand même.
Non, mais
ben, je... Oui, mais je veux dire que cette fêlure-là, elle n'est jamais loin,
non,
même de
mais
toute façon
elle
dans
sait,
le livre.
Elle, me...
elle vous a servi.
Absolument. Mais cette fêlure-là, c'est l'artiste.
Oui.
Et j'ai compris, parce que j'ai été... éduquée à l'École nationale de théâtre, j'ai compris quoi faire avec mes feelings, quoi faire avec ma tristesse, quoi faire avec mon hyper-joie, qu'est-ce que je gardais pour moi, parce que c'est un matériel de travail. Toute cette hypersensibilité, toutes ces choses qui me faisaient extrêmement peur, je les mettais dans mon art. Et c'est pour ça que je pouvais rire comme une folle aussi, parce que je riais de moi beaucoup. Tu sais, je pouvais pleurer pendant 2 heures le matin, puis arriver à Radio-Canada l'après-midi, pimpante, de bonne humeur, tu sais.
Ouais.
Mais je n'apportais pas ce côté-là de moi, c'est privé. Je comprends.
Mais là, on en apprend beaucoup plus, évidemment, dans
ben
ce
là,
livre.
C'est plus privé, c'est fini. J'ai plus de vie.
Ah non, là, c'est fini, là.
Terminé.
Ça vous fait quoi?
Absolument rien.
Bon. Eh bien, je vous remercie, Louise. C'était Louise Forestier et c'était Clotilde Seil.
Je suis pas gênée d'avoir écrit ça. Je trouve que quelques... Des fois, je me dis, il y a des choses que je... Oui, j'ai oublié. Ce qui serait intéressant, je pense pas de le faire parce que j'ai trop de... J'ai assez joué dans tout ça dans ma vie. J'ai fait des années de thérapie aussi pour justement être capable d'éclater de rire tout le temps. Et j'ai tellement fouillé dans ce matériel-là que ça me tente plus quelque part de refouiller, mais ça me tente d'écrire que tout ce que ces tiroirs contiennent, ça me tente de refouiller. Et d'en parler autrement qu'au jeu.
Je comprends. Ça veut dire qu'il pourrait peut-être y avoir d'autres tiroirs, une autre commode?
Oui, sûrement.
Ah?
Oui, oui.
Mathieu, attelle-toi. Un séjour, on va revoir Louise Forestier dans nos studios pour enregistrer un nouveau livre. Louise, on va se quitter bientôt. Il y a un moment donné où dans vos mots, j'ai eu le sentiment que vous pensiez que vous aviez été abandonnée. En tant que chanteuse, hein, surtout. Surtout en tant que chanteuse,
non.
En tant qu'artiste en général.
En tant qu'être humain.
En tant qu'être humain. D'ailleurs, vous dites, je m'interroge beaucoup sur la négligence du Québec et du Canada envers ces artistes.
Ces artistes, pas juste moi.
Avez-vous trouvé une réponse? Pourquoi?
Pourquoi on fait ça, hein? Ouais. Parce que pourquoi on n'a pas de mémoire ici? C'est vraiment ridicule. On n'a vraiment pas de mémoire. Parce que ça fait pas assez longtemps qu'on existe, peut-être. Tu sais, en Europe, t'arrives, la moindre roche a 4000 ans, tu sais, ici, c'est un... On le sait pas, on sait rien, on sait pas quel âge qu'elle a, on sait qu'on est très jeune. Alors, peut-être que la mémoire, c'est au fil du temps que ça se développe. Ou alors, parce que on s'aime pas assez, puis on s'évite.
Louise Forestier, aujourd'hui, elle cultive le détachement, demain, elle va le cultiver quoi?
Ça pousse vite, le détachement.
C'est ça.
Là, je cueille le détachement. Je vais
vous
faire
l'arrosez...
la confiture tout à l'heure.
Vous l'arrosez à quoi, votre détachement?
Mon détachement rend mon linge plus blanc, madame. Voilà ma vie. Voilà mon projet.
Merci, Louise Forestier. Oui. Merci infiniment pour ce livre Forestier, selon Louise.
Pot choker. Pas de collier, chienne de vie, quoi.
Et ne manquez pas l'émission des livres plein les oreilles. Si vous aimez les livres audio, c'est l'émission qu'il faut écouter à chaque semaine, le jeudi, sur les ondes de Canal M. C'était Clotilde Seil.
Merci, Clotilde.
Infiniment à vous, Louise Forestier. Au revoir.
Au revoir.
Sacré Louise Forestier, si on ne l'avait pas eue, cette femme-là, Dieu qu'il aurait fallu l'inventer ici au Québec. Quelle belle bonne femme. Bon, restez des nôtres, c'est toujours Clotilde Seille en votre compagnie. En seconde partie, je vous propose quelques nouvelles sur le livre audio et puis une chronique sur ce vieux classique, La Belle et la Bête. Une chronique présentée par Marie-Ève Groux. À tout de suite. Des livres pleins les oreilles, seconde partie. Alors Clotilde Seille, à nouveau en votre compagnie, à l'émission Des livres pleins les oreilles, émission, faut-il le rappeler, consacrée aux livres audio. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire en écoutant un livre audio. On peut faire le ménage, on peut faire la cuisine, on peut voyager ou même on peut peindre, pourquoi pas. Cézanne aurait peut-être aimé ça, tiens, en son temps. Je vais vous raconter l'histoire d'une femme qui écoute des livres audio en peignant, juste avant La Plume, la touche de Michel Berger, par une de ses muses, France Gall.
Silence les grillons, sur les branches immobiles, les arbres font des rayons et des ombres subtiles. Silence dans la maison, silence sur la colline, le parfum qu'on devine, c'est l'odeur de saison. Mais voilà l'homme sous ce chapeau de paille, des taches plein sa blouse et sa barbe en bataille. Cézanne. De ses mains, ses atteints. Il éclaire le monde pour nos yeux qui ne voient rien. Si le bonheur existe, c'est une épreuve.
les couleurs. Il y met sa vie, le bruit de son cœur. Et comme un bateau porté par sa voile, doucement le pinceau glisse sur la toile. Et voilà l'homme qui croise avec ses yeux le temps d'un éclair, le regard des dieux. Ses atteintes s'accomplir le prodige de ses mains, ses atteintes. Il éclaire le monde pour nos yeux qui ne voient rien.
Écouter des livres audio, ça peut être aussi une autre façon de lire, d'entrer dans de nouveaux univers. Et il y a une peintre qui fait ça. Elle s'appelle Irina Pandeva. Elle écoute des livres audio avec son casque sur les oreilles et elle dit que ses lectures l'inspirent quand elle peint. Ce sont des peintures d'ailleurs très très étonnantes que j'ai sous les yeux. C'est entre eux, BD, toile, photo, c'est très coloré, ce sont beaucoup de portraits, et c'est ça, on verrait bien figurer ça dans une case, dans une bande dessinée. C'est vraiment plein de couleurs, c'est très étonnant. Alors donc, chaque toile qu'elle peint est inspirée souvent par un livre qu'elle écoute. Elle explique « J'ai toujours voulu lire plus ». Mais le temps me manquait pour profiter de plus de livres. Alors les livres audio semblaient être une très bonne solution à mon problème, mais écouter tout en travaillant sur l'ordinateur ou en faisant autre chose ne fonctionnait pas vraiment. Mon bavardage interne interrompait le livre audio et je finissais le livre sans entendre ni comprendre. Alors elle a essayé d'écouter en peignant. Et à sa grande surprise, cela a fonctionné. Apparemment, elle peut comme assourdir ses pensées tout en peignant, et profiter pleinement du contenu du livre audio, quel que soit le sujet traité. Je vous recommande d'aller voir les peintures de Madame Pandeva. Si vous faites simplement son nom et son prénom, Irina, comme ça se prononce, Pandeva, pandeva.com, vous allez trouver toutes ces peintures-là. Alors, sur quoi les a-t-elle peintes, ces œuvres ? Sur quel livre audio? Il faut savoir qu'elle écoute beaucoup de livres en anglais. Bon, ici, je n'ai pas d'extrait pour vous en anglais aujourd'hui parce que j'aime bien, en principe, comme je m'adresse à un public francophone, j'aime bien ne vous faire entendre que du francophone. Mais quand même, je voudrais vous citer les auteurs qu'elle lit. Chris Gilbo, Brené Brown également, qui a écrit « Braver le désert » ou encore « Les dons de l'imperfection », qui sont d'ailleurs des livres qui se retrouvent au SQLA, donc au Service québécois du livre adapté, le pouvoir de la vulnérabilité notamment, et de Brené Brown, sur lequel Madame Pandeva s'inspire beaucoup lorsqu'elle a à peindre une œuvre. Et puis elle écoute aussi beaucoup Elizabeth Gilbert, ou Elizabeth Gilbert si vous préférez que je le prononce à la française. Et ça vous dit, ouais, ça me dit quelque chose. Mais oui, c'est celle qui, entre autres, a écrit « Mange, prie, aime ». Vous savez, l'histoire de cette femme qui, à 31 ans, possède absolument tout ce qu'elle désire pour la rendre heureuse. Elle est bien mariée, elle a une belle maison, elle a une carrière prometteuse. Bref, elle devrait nager dans le bonheur. Et pourtant, c'est une femme qui est rongée par l'angoisse, le doute, l'insatisfaction. S'ensuivent alors un divorce, une dépression, une liaison absolument désastreuse et qui la laisse complètement désemparée. Alors, elle se décide à tout plaquer, à partir toute seule à travers le monde, et elle décide de se reconstruire une vie qu'elle s'est choisie. Alors, en Italie, elle goûte au plaisir de la vie, de la dolce vita. Elle mange, mais elle mange, elle qui s'est toujours interdit de manger toutes sortes d'affaires pour rester mince. Eh bien là, elle prend les 12 kilos, dit-elle, les plus heureux de sa vie. En Inde, elle va vivre un ashram, la rigueur ascétique qui vont l'aider à discipliner son esprit. En Indonésie, elle va chercher à réconcilier son corps et son âme pour trouver cet équilibre qu'on appelle le bonheur. Bref, c'est une femme qui vous invite vers l'inconnu, à la fois joyeux et émouvant. Oui, ça a donné lieu, on s'en souvient, à un film. Ça a été adapté, Mange, Prie, Aime, en 2010, et c'était interprété par Julia Roberts dans le rôle d'Elisabeth Gilbert et Javier Bardem. Maintenant, Mange, Prie, Aime existe également en audio. C'est lu par Catherine Creux, C-R-E-U-X, Mange, Prie, Aime, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes où se vendent des livres audio. En voici un extrait.
J'ai longtemps cru que cette 109e perle était une perle de réserve, destinée à pallier les imprévus, comme peut l'être le bouton de rechange d'un beau cardigan ou le fils cadet d'une famille royale. Mais il semblerait que sa fonction soit autrement plus élevée. Quand au cours de la prière, vos doigts rencontrent ce jalon, vous êtes censé marquer une pause dans votre méditation et remercier vos maîtres. Alors ici, à la 109e perle de mon Japamala, je marque cette pause avant même d'avoir commencé. Je remercie tous mes maîtres qui, au cours de cette année, me sont apparus sous tant de formes surprenantes. Toutefois, je remercie plus particulièrement mon gourou, qui est le pouls même de la compassion et qui m'a si généreusement permis d'étudier dans son ashram lors de mon séjour en Inde. C'est également le moment où je souhaite clarifier un point. Ce récit de mes expériences en Inde est écrit d'un point de vue strictement personnel et non de celui de l'érudit en théologie ou du porte-parole officiel de qui que ce soit. C'est pour cette raison que je tais dans ce livre le nom de mon gourou. Je ne veux pas m'exprimer à sa place. Ce sont ses enseignements qui parlent le mieux en sa faveur. Je ne révélerai pas davantage le nom ni l'adresse de son ashram pour épargner à cette belle institution une publicité qui serait sans intérêt pour elle et à laquelle elle n'aurait pas les moyens de faire face.
J'ai aussi peut-être une autre suggestion. Peut-être aimez-vous la peinture en plus des livres audio. Et vous savez qu'il existe d'excellents livres sur la peinture et sur les peintres. Et notamment, il y a celui, c'est Van Gogh ou Van Gogh. Bon, excusez-moi, je vais le dire à la française. On m'a toujours habitué à dire Van Gogh. J'ai beaucoup de mal à dire Van Gogh. Donc Van Gogh, Le soleil en face, de Pascal Bonafou. C'est lu par Bernard Métro, cette grosse voix qui a lu également Game of Thrones, donc le trône de fer. Tous les épisodes, tous les chapitres, tous les tomes, il a tout lu ça, lui. Alors, c'est ça, on suit un petit peu la vie, l'enfance de Vincent Van Gogh, son rapport avec son frère, avec son père, comment il a quitté les études, comment il s'est ramassé assez rapidement à travailler, un type très exigeant, très très rigoureux, comme on va l'entendre dans cet extrait donc de Van Gogh, Le soleil en face, de Pascal Bonafou.
L'oncle Saint, malade, a cédé son commerce. Goupil et compagnie, maison de Paris, en a fait sa succursale hollandaise. Goupil et compagnie disposent par ailleurs de galeries à Londres et à Bruxelles. Monsieur Ter Steeg, qui dirige la succursale hollandaise, engage comme vendeur de reproduction le 30 juillet 1869 l'adolescent recommandé par son oncle. le papier en tête de Goupil et compagnie successeurs précise « Ancienne maison Vincent Van Gogh ». L'employé Vincent Van Gogh est zélé, ponctuel, efficace, un modèle auquel on n'a guère que des éloges à adresser. Sa vie est régulière, austère et studieuse. Il lit, visite les musées. Pendant l'été 1872, il quitte La Haye pour retrouver sa famille, installée depuis la fin du mois de janvier 1871 à Elvort, où son père a été nommé. Théo, qui poursuit ses études à Oosterweek, un bourg voisin, l'y rejoint. La situation de leur père ne s'est guère améliorée. Elvort ne songe rien à la gêne. Théo ne peut poursuivre ses études. Les deux frères quittent ensemble le presbytère paternel. Théo accompagne Vincent à La Haye, où il reste quelques jours. Vincent y est pensionnaire de la famille Roos. Lorsque Théo repart pour Oosterweek, les deux frères commencent à s'écrire. À la mi-décembre, Pa apprend à Vincent que grâce à une nouvelle intervention de l'oncle Saint, Théo est engagé par Goupil et compagnie. Il doit commencer à travailler pour leur succursale de Bruxelles dès le début de l'année 1873. Vincent écrit à son frère. « Je suis si content de savoir que nous allons être désormais occupés dans la même partie, en outre pour la même maison. Il va falloir que nous nous écrivions beaucoup désormais. » 17 ans durant, ils ne cesseront de s'écrire.
Extrait donc de Van Gogh, Le soleil en face de Pascal Bonafou. On aura l'occasion, souvent, dans le cadre de cette émission des Livres pleins les oreilles, d'évoquer des nouveautés, vraiment tout neuf, tout chaud, sorti pour vos oreilles, mais également des classiques. Et c'est le cas notamment de La Belle et la Bête, classique parmi les classiques. Et c'est Marie-Ève Groux qui va venir nous en parler dans quelques minutes. D'abord, un souvenir du plus récent film tourné de cette œuvre-là, La Belle et la Bête. On écoute cette chanson.
J'étais celui qui avait tout, seul maître de ma destinée. Je pensais que je n'avais besoin de personne, comme je me trompais. Tout n'est désormais que douleur. Elle n'est plus là, mais je la vois. Quel est cet émoi qui m'a frappé en plein cœur? Entendra-t-elle ma voix? Nous serons ensemble à jamais, même si elle fuit dans la nuit. Elle était tout pour moi, la joie, l'émoi, l'espoir, toute ma vie. Je n'ai plus qu'à mes remords et je pleure sur mon sort. J'espère en vain qu'elle reviendra vivre avec moi jusqu'à ma mort. L'amour est un tourment atroce. Je souffre quand revient le soir. Elle a pris son envol et tout me semble vide. Je crois pourtant la voir. Nous serons ensemble à jamais, même si un jour elle m'oublie.
Elle est ma raison d'être. Elle était la vie de ce château. Mais je n'ai plus que mes remords et je pleure sur mon sort. Je sais bien que j'espère en vain. C'est le début d'une nuit sans fin. L'histoire pourtant commence bien. J'attendrai jusqu'à ma
Quelle voix quand même. Moi, je dirais comme ça, Dominique Côté. Ça, je suis sûre que ça a été fait au Québec. Et c'était, ah oui, je suis quasiment sûre, c'était celui qui chantait Nelly Gant dans il y a quelques années, quand ils avaient fait une lecture musicale avec Daniel Lavoie et tout ça. Il me semble que c'est... En tout cas, on s'en fout complètement. La Belle et la Bête. Bonjour, oui. Marie-Ève.
Bonjour, Clotilde.
Alors, on va dire, si moi, je suis la Belle... Pardon. Alors,
moi, je suis la Bête.
C'est une première. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, Marie-Ève, parce que j'aime bien qu'il y ait des voix différentes. Là, on aura déjà eu celle de Louise Forestier. Un peu plus tard, on va avoir Yves Beauchemin qui va être là. Maintenant, c'est vous. La Belle et la Bête, ça a été réenregistré en livre audio. C'est disponible sur notre catalogue, Vues et Voix, c'est bien
exactement.
Ça?
Exactement. C'est lu par Mathieu Farcy, qui est un conteur français. Qu'on a commencé à distribuer et à diffuser cette semaine.
Okay.
Beaucoup d'histoires d'horreur, d'histoires de terreur, mais aussi La Belle et la Bête, qui clash un peu, si je peux dire, dans ce qu'il nous a proposé.
Oui, parce que c'est à la fois... C'est-à-dire, ça a été vendu comme un conte pour enfants, parce que celle qui l'a écrit écrivait des contes pour enfants, c'est bien ça?
Oui, ben en fait, elle écrivait... Elle s'appelle... c'est sur son nom d'abord, en fait, qui m'a intéressée, parce qu'elle s'appelle Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont. Et à la base, moi, en lisant son nom très, très rapidement, en rentrant les métadonnées, donc, dans notre système, je lisais constamment Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont. Et là, de me rendre compte que finalement, et je suis allée vérifier parce que je me disais, mais est-ce que c'est Jean-Marie? Est-ce qu'on a fait une coquille? Et là, qu'elle a un prénom féminin qui s'appelle Le Prince de Beaumont, c'est là où je me suis fait prendre par mon biais, un peu mon propre biais, d'assumer que ça avait été un homme. Parce que c'est un très vieux texte qui date du 18e. Donc, moi, d'entrée de jeu, je me suis dit, ben, c'est un gars.
Oui,
mais pas tout, c'est une femme.
C'est une femme.
Exactement.
Et vous savez qu'on a, on a un point commun avec cette femme-là. On est né dans la même ville. Elle est née à Rouen, en Seine-Maritime.
J'allais dire la même époque, c'est non quand même, Clotilde, là, mais la
non,
ville,
pas
la
même,
ville j'accepte quand même.
Non, je suis vieille, mais quand même pas ce point-là, Marie-Ève. Bon, ben Marie-Ève, c'est tout le temps que j'avais pour vous. Je vous remercie.
mais je peux vous parler de Madame Jeanne-Marie, le prince de Beaumont, en fait, parce qu'elle a une vie quand même, j'oserais pas dire scabreuse, mais elle a une vie quand même scandaleuse selon les biographies qu'on va lire. Il y a des biographies qui sont très, très édulcorées, où on dit qu'elle a été instructrice pour les jeunes femmes, elle a été gouvernante chez la haute société anglaise au 18e. Elle revient après ça, on la décrit comme une femme très pieuse. Et parallèlement à ça, elle a un mariage qui n'a jamais été entériné par l'Église, qui n'a pas non plus été annulé faute de sous. Donc, c'est comme une espèce de mariage flottant qu'elle a eu. Elle s'est sauvée de Rouen jusqu'à Londres, où elle a rencontré un contrebandier français de qui elle a pris le nom de Beaumont.
Faut aussi savoir que quand on est à Rouen, on est tout près de Dieppe et c'était de là que partaient les bateaux. Ils partent encore d'ailleurs maintenant. Et autrement dit, c'est à quelques brassées, quoi, à la nage.
Une coupe de coups de pagaie et on est à Londres.
Et c'est ça. Non, mais c'est pour ça, c'était plus facile d'aller à Londres quand on habitait Rouen que Marseille, par exemple.
Oui, ou Montréal, à cette époque-là, ça fait un peu loin.
Dites-moi La Belle et la Bête.
Oui.
C'est pas vraiment pour les enfants, ça.
C'est pas vraiment pour les enfants. Mais après, quand on va relire des contes, même des frères Grimm, même de Perrault, on se rend compte que le conte a une fonction vertueuse, moralisatrice.
Ben oui.
Rarement d'amuser les enfants comme on peut...
Ça fait peur.
Ça fait peur. C'est hyper glauque.
Le géant qui bouffe les petits-enfants.
Oui, c'est ça. Puis même l'histoire de la Belle au bois dormant, à la base, la morale de l'histoire, c'est un peu tant pis pour toi.
Ben oui, qui se réveille sur un baiser, je vous raconte pas la laine.
Ben non, c'est
après
ça.
Après 100 ans. Ça fait 100 ans qu'elle est remplie.
Puis Dieu sait que la brosse à dents n'était pas d'usage courant.
Non, mais, sérieusement, mais c'est une belle histoire. Entre autres, on se souvient qu'il y a quand même Jean Cocteau, qui n'est pas le premier metteur en scène venu, auteur, dramaturge, etc., qui avait signé un film.
Oui.
J'aimerais ça qu'on en écoute un petit bout, parce qu'à l'époque, ça faisait peur. C'est un film de 1946. Je voudrais dire à mon ami Maurice, c'est pas le premier, c'est le deuxième extrait. On va écouter, parce que vous allez voir, c'était vraiment fait pour...
Oui, c'est terrifiant.
Pour les grandes personnes qui n'ont pas perdu leur enfance, même le parquet veut devenir notre miroir. Et cette bête parle le langage des hommes.
Qu'est-ce qu'elle boit? Qu'est-ce qu'elle mange?
Il m'arrive de lui donner à boire.
Nous devons tuer la bête et prendre ses richesses. Mais tu sais ce que c'est qu'une puissance magique?
C'est un, d'ailleurs, c'était digne hein, pour les grandes personnes qui ont encore un cœur d'enfant. Mais moi qui ai vu les images, c'était vraiment terrifiant, quoi, cette histoire.
Oui, puis Cocteau, dans son film, joue beaucoup avec l'ombre, avec la lumière. Dans les adaptations de Disney, il y a les personnages qui se réveillent. Il y a tout le Bataclan qui se réveille. Je me rappelle de mes moments, il y a un chandelier, il y a le miroir,
c'est
il y a
ça,
l'horloge.
Exactement.
Cocteau joue avec ça, où les objets, le décor, deviennent un peu des personnages à cause de la mise en scène.
Ah oui, non, mais on parle de 1946. On comprend pourquoi ça avait été à l'époque. Hein.
Puis avec le noir et blanc, les ombres, les jeux de lumière deviennent toujours un peu plus glauques. Il y a quelque chose de fantastique là-dedans.
Alors, la lecture de monsieur...
Farcy. Monsieur Farcy. Mathieu Farcy.
Bon, j'ai envie, sans vouloir vous embêter, mais j'ai envie d'en faire entendre un petit bout quand même à nos auditeurs.
Absolument.
C'est donc extrait de ce livre nouvellement paru et disponible sur le catalogue livreaudio.vusezvoix.com. Un extrait, mon ami Maurice, s'il vous plaît.
Il y avait une fois un marchand qui était extrêmement riche. Il avait 6 enfants, 3 garçons et 3 filles. Et comme ce marchand était un homme d'esprit, il n'épargna rien pour l'éducation de ses enfants et leur donna toutes sortes de maîtres. Ses filles étaient très belles, mais la cadette surtout se faisait admirer, et on ne l'appelait, quand elle était petite, que la belle enfant, en sorte que le nom lui en resta, ce qui donna beaucoup de jalousie à ses sœurs. Cette cadette, qui était plus belle que ses sœurs, était aussi meilleure qu'elle. Les deux aînées avaient beaucoup d'orgueil parce qu'elles étaient riches. Elles faisaient les dames et ne voulaient pas recevoir les visites des autres filles de marchands. Il leur fallait des gens de qualité pour leur compagnie. Elles allaient tous les jours au bal, à la comédie, à la promenade, et se moquaient de leur cadette qui employait la plus grande partie de son temps à lire de bons livres. Comme on savait que ces filles étaient fort riches, plusieurs gros marchands les demandèrent en mariage. Mais les deux aînés répondirent qu'elles ne se marieraient jamais, à moins qu'elles ne trouvassent un duc, ou tout au moins un comte. La belle, car je vous ai dit que c'était le nom de la plus jeune, la belle, dis-je, remercia bien poliment ceux qui voulaient l'épouser, mais elle leur dit qu'elle était trop jeune, et qu'elle souhaitait de tenir compagnie à son père pendant quelques années.
Alors, c'était un extrait de la version de Madame Jeanne-Marie Le Prince de Beaumont. Et on parlait tantôt, donc c'est un conte à la base qui se trouve dans le magasin des enfants, qui est un petit magazine, en fait, qui a été monté par Madame Le Prince de Beaumont à l'intention des jeunes filles. C'est un magazine qui se voulait assez moralisateur, vertueux. Uh-huh. Et donc, la version abrégée que présente Madame Jeanne-Marie Le Prince, c'est une version abrégée d'un conte de Madame de Villeneuve. Gabrielle de Villeneuve, qui, elle, en avait fait un roman très, très long à la base, mais vraiment plus sulfureux, où la bête, en fait, à chaque soir, allait voir la belle pour lui demander « Voulez-vous coucher avec moi? » Et Madame de Beaumont a repris le conte et l'a moralisé pour le mettre au sein d'un livre à l'attention des jeunes femmes, donc. Uh-huh. Et alors là, c'est la belle qui est plutôt vertueuse, qui va sauver son père, qui va pardonner à ses sœurs, les sœurs qui ont disparu de la version Disney, d'ailleurs, pour des raisons de trame narrative plus simplifiées. Mais donc, elle va pardonner à tout le monde. Elle est assez, pas bonasse, j'ai envie de dire, mais elle est plutôt passive, la belle, dans la version de Jeanne-Marie. Alors que la version de Madame de Villeneuve, elle a un petit peu plus de torque.
La Belle et la Bête, allez vous replonger dans ces contes-là. On avait raison avec le film de Cocteau de dire si vous êtes encore des adultes, mais avec un cœur d'enfant. On y trouve toujours son compte dans ces contes-là. Il
n'y
a pas d'âge pour la fantaisie. Marie-Ève Groux, merci beaucoup. On se retrouve dans deux semaines. Alors, c'est la fin de la seconde partie de l'émission des Livres Pleins les Oreilles. Restez des nôtres en troisième partie. Je vais recevoir Yves Beauchemin pour Les Empocheurs. Et puis, on reviendra sur un autre classique sorti chez Audiolib, c'est Alice au Pays des Merveilles. À tout de suite. Des livres pleins les oreilles, troisième partie. Avec au programme, eh bien, une autre rencontre pour aujourd'hui avec un autre auteur, un type tellement important ici au Québec, qui a toujours écrit d'ailleurs quasiment que sur le Québec. Il s'agit de Yves Beauchemin, qui est déjà en studio. On va parler avec lui des Empocheurs. C'est son dernier roman. Il va nous dire s'il y en a un autre en route ou pas. Et juste avant peut-être que j'accueille Monsieur Yves Beauchemin, je vous propose un extrait de Les Empocheurs, tel qu'il existe maintenant en livre audio.
Un soir d'octobre, au début des années 2000, quelques minutes après le coucher du soleil, une lune orange s'éleva dans le ciel tourmenté dont tombait une pluie glaciale. Sa couleur bizarre et comme mêlée de sang donnait à sa face une expression tellement sournoise que des passants levèrent la tête et restèrent bouche bée. Les heures s'écoulaient, incertaines, vaguement lugubres. Une pénombre piquée de lueurs tremblotantes s'était répandue partout et avait envahi la chambre d'un hôtel de Maniwaki, tirant de l'obscurité le visage d'un jeune homme endormi dont la bouche laissait échapper les soupirs d'un mauvais sommeil. On aurait vite deviné que le dormeur n'avait pas aimé la journée qu'il venait de passer et craignait celle qui l'attendait. En effet, vers 6 heures, la première chose qu'il fit à son réveil fut de grimacer en promenant un regard maussade sur sa chambre meublée avec une sommaire banalité. « Ah, chienne de chienne !» soupira-t-il en glissant les jambes hors du lit. « C'est comme si on m'avait frappé toute la nuit avec une planche. » D'un pas traînant, il se rendit à la salle de bain, prit une douche, s'habilla et apparut bientôt dans le hall de l'hôtel, l'œil huileux, la bouche pleine de bâillements. Une grosse fille, à l'expression avenante, pas particulièrement jolie, pas particulièrement laide, se trouvait derrière le comptoir de la réception. « Bonjour, monsieur Lupien, » fit-elle avec une amabilité qui débordait les obligations de la courtoisie commerciale. « Vous avez passé une bonne nuit ?» La veille, dès le premier coup d'œil, ce nouveau client arrivé de Montréal lui avait plu avec sa taille élancée, son air décidé et sa belle chevelure rousse qui lui donnait des airs de chérubin délinquant. « Non, pas vraiment, » répondit-il après un nouveau bâillement, et il se frotta la nuque.
S'il savait à ce moment-là, ce pauvre Jérôme Lupien, tout ce qu'il l'attend après. Bonjour, Monsieur Beauchemin.
Il irait se recoucher.
Yves Beauchemin, bonjour.
Bonjour.
Je suis ravie de vous accueillir pour cette première émission de la saison à des livres pleins les oreilles. Quelle carrière, hein, Yves Beauchemin. Vous en avez écrit des bouquins. Vous avez commencé tôt, hein, 15-16 ans. Aujourd'hui, vous avez quoi, 32 ?
Mon premier livre, j'avais quand même 40 ans.
Oui, mais le roman, mais avant, vous adonniez.
Oui, bien sûr, au collège, j'avais commencé à écrire des nouvelles humoristiques. J'ai été très influencé.
Vous avez fait dans l'humour.
Ah oui, Alphonse Allais, c'était, c'était mon idole.
Lui qui disait « un tel va pas bien, machin va pas bien, machin va... » Et moi-même, je ne me sens pas très de mon matériel.
Oui, c'est ça. Attendez, je pense que je le connais par cœur, celle-là.
Ah oui?
Mesdames et messieurs, Shakespeare est mort.
C'est ça.
Dickens est mort. Goethe est mort. Et moi-même, ce soir, je ne me sens pas très bien.
C'est ça, exactement.
On entend la salle qui éclate, évidemment. Voilà. Oui. Oui, alors j'ai commencé à écrire très jeune. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est un goût. Oui. Un goût qui naît en nous. Il faut dire que j'aimais beaucoup la lecture. Je tenais ce goût-là de ma mère. Et puis, les premières nouvelles que j'ai écrites et qui sont toujours inédites, heureusement.
C'est vrai?
C'est le début.
Oui, c'est le début.
Oui. C'était des nouvelles qui se voulaient humoristiques, sauf peut-être quelques-unes très angoissées. Ouais. Et j'ai un peu appris mon métier comme ça, et aussi en lisant. Les auteurs russes, entre autres, j'ai été très profondément influencé par eux.
Ah oui?
Tchekhov, oui. Qui ne manquait pas d'humour, lui non plus.
Dostoïevski,
qui en était complètement dépourvu. Et Tolstoï, on ne peut pas dire que c'était un ricaneux, mais c'était de grands génies, tous les trois. Et je les ai fréquentés par leurs livres, bien sûr. Et Balzac aussi. Enfin, tous des grands noms. Et ici au Québec... Gabriel Leroy, qui est né à l'extérieur du Québec, mais qui est une grande écrivaine, j'utilise. Mm-hmm. Et
pas autrice, quoi? C'est à ça que vous faites référence?
Autrice, je trouve ça un peu bizarre. J'aime mieux auteur avec un E.
Oui, moi aussi, mais en même temps, Claudia Larochelle me faisait remarquer que autrice, ça a déjà existé.
Ah oui?
Et que c'est l'Académie française qui avait décidé que ça disparaîtrait. Mais ça existait au même titre qu'une factrice ou qu'une rédactrice.
Ah, rédactrice, tiens, c'est vrai.
Voilà.
Alors je vais peut-être m'habituer.
Ben, moi, j'essaie en tout cas, mais j'ai du mal.
Mais je suis mieux de me dépêcher parce que j'ai 78 ans, là.
Mais vous ne les faites tellement pas.
Je fais 76, c'est sûr.
non, pas du tout. Moi qui vous ai en face de moi, là. Non. Alors, moi, j'aime bien quand j'accueille un auteur qu'on parle surtout aussi du livre dont on a entendu un extrait, Les Empocheurs. Je suis rentrée là-dedans, mais alors, mes amis, comme dans du beurre, et j'avais beaucoup de mal à en ressortir. Ce Jérôme-là, donc, est loin de s'imaginer dans quel piège à con, je m'excuse, mais c'est le mot qui me vient, il va tomber. Et là, on assiste à on voit ce bonhomme qui, au début, va se faire enfiroiper deux fois plutôt qu'une. On est convaincu que le livre va être basé sur la première histoire, c'est-à-dire qu'on va revenir sur cette affaire de panache d'Orignal, et j'en dirai pas plus. Mais pas du tout. Là, on tombe dans la corruption, on tombe dans tout ce que Montréal, parce que ça se passe à Montréal, a de plus moche et de plus vil et de plus pleutre et de plus laid. Là, je me suis dit, est-ce que je peux imaginer Yves Beauchemin devant les images de la commission Charbonneau, scotché à sa télé, se disant, faut que je fasse quelque chose avec ça? Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé, Yves?
Je m'intéresse beaucoup à la politique.
Oui.
Je suis indépendantiste depuis toujours et actuellement assez pessimiste devant la tournure des choses. Oui, effectivement, mais je ne voulais pas que ce soit un roman à message. Ils sont très ennuyeux, ces romans-là. Ouais. C'est plutôt un roman d'initiation à la vie. Il faut dire que l'initiation pour Jérôme Lupien a été assez dure. Mais à la fin, ça se replace un peu. Mm-hmm. Il est journaliste au devoir. J'ai nommé des personnages au devoir, des personnes au devoir qui, le rédacteur en chef, etc.
Ouais, oui. Et dans la presse aussi, d'ailleurs, vous nommez Yves Boisvert à un moment donné, Nadeau au devoir. Ils sont nommés. Il n'y a que les gens en politique qui ne sont pas nommés par leur nom, mais il y en a quelques-uns
qu'on peut deviner, oui. Qu'on peut dont on peut deviner l'identité.
Oui, dont une d'ailleurs qui à un moment donné, elle n'avait pas aimé ça du tout.
Pourtant, je n'avais pas parlé d'elle.
Non, mais c'était comme clair qu'elle était.
Mais elle a décidé de ne pas m'intenter de procès parce qu'elle était très occupée par les procès qu'on lui intentait. Alors, tant mieux pour elle, tant mieux pour moi.
Exactement. Alors, comme ça, on sait tout de suite de qui on parle. Oui. Alors, ce Jérôme-là, eh bien, à un moment donné, bon, il est en dilettante à ce moment-là, hein, et puis il s'en va à Cuba. Il est un peu... Il traîne la patte un peu. Hein. Il est pas foncièrement heureux. Il a pas de blonde. Puis, c'est à Cuba que, tout d'un coup, il va faire des rencontres qui vont bouleverser et sa vie sentimentale. Et sa vie, entre guillemets, professionnelle.
Oui, effectivement.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Oui, il rencontre Francine Desjarlais, qui est la mère de Sylvain Sicotte.
Oui,
je ne me rappelle plus les noms. Hein. C'est mon livre est sorti en 2016.
Sicotte, attendez, là, son prénom, Monsieur Joyal. Ben, en tout cas, là, je ne l'ai plus sous les yeux.
C'est Sicotte.
Ah, ça, c'est certain.
Oui. Alors qui de son somptueux bureau avec des meubles imitation Versailles,
oui.
S'occupe avec beaucoup de zèle de pots de vin, ouais. de tractations secrètes et mm-hmm. tout ça.
Et, c'est un lobbyiste.
Oui, c'est ça, lobbyiste qui.
C'est-à-dire
qui ne s'arrête devant rien.
Il va favoriser. Pour les gens des affaires, il va s'arranger pour que les gens des affaires puissent faire librement leurs affaires à la barbe de tous les contribuables, mais en faisant en sorte qu'on se mettait les gens de la politique dans sa petite poche, quoi.
Oui.
En gros, c'est ça.
Mais c'est pas mon roman n'est pas un roman à clé.
Non.
À clé, parce que ce genre de roman, j'espère en tout cas, parce que ce genre de roman, ça perd très vite son intérêt au bout d'une certaine période, je veux dire...
Vous ne nous perdez pas, parce qu'il y a tellement de rebondissements dont on ne va pas trop parler, parce que je ne veux pas non plus trop en dire, mais je sais qu'il y a quand même beaucoup de choses auxquelles on ne s'attend pas, y compris avec sa nouvelle blonde, entre autres, avec son ami Charlie. Bon, on ne dira pas tout, mais on ne s'ennuie pas. Hein.
Mais tant mieux.
On ne s'ennuie pas du tout. Et alors, il y a dans votre écriture, vous les faites parler, évidemment, ces gens-là. On rencontre à un moment donné un monsieur Joyal, qui est l'espèce de parrain, finalement, là-dedans, qui a des mots. Attendez, je vais... j'avais noté, lorsqu'il parle de leur crapulerie, Yves Beauchemin donne à ses personnages un esprit de synthèse hors du commun. Par exemple, monsieur Joyal, qui dit ceci à notre jeune Jérôme, pour lui expliquer sans une once de remords le fondement de la corruption. Il lui dit qu'il faut penser à chaque génération. C'est pour ça que la corruption existe. Et il dit « construire des ponts ou des hôpitaux ou des routes, peu importe, qui durent trop longtemps. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce que si ça dure trop longtemps, c'est mener un pays à la stagnation économique, à l'anémie chronique. L'argent est fait pour rouler, dit-il, et quand il ne roule pas, il rouille. Donc arrangez-vous, par exemple, il lui dit à un moment donné, parce qu'il est question du pont Champlain, il est question des lampadaires qu'il a fallu remplacer à Montréal, tout ça. Et en ce qui concerne le pont Champlain, il leur dit à un moment donné, il dit à des spécialistes, attention mes amis, attention, ne faisons pas l'erreur du pont Jacques-Cartier. Alors là, le jeune Jérôme lui demande, mais quelle erreur? De le faire trop solide. Il faut penser aux autres générations et aux autres. C'est... On grince des dents un petit peu, hein, Yves Beauchemin. C'est cynique. Hein?
Oui, c'est cynique, mais c'est la réalité quand même. J'ai bien hâte de voir... Mais je ne le verrai pas. J'aimerais bien savoir combien de temps le nouveau pont Champlain va durer. Mais l'autre, c'est une catastrophe totale. On ne construit pas des ponts pour 50 ans.
Mais non. Et c'est ce qui avait été fait.
Oui, les Romains étaient meilleurs. Le pont du Gard existe toujours. Puis, mais ce n'est pas un vrai pont, c'est un aqueduc.
Oui.
Mais c'est fait comme un pont. Et puis, ouais. Il est encore assez solide malgré quoi. Ouais. Il doit avoir pas loin de 1000 ans.
Oui. Ouais.
Alors, c'est une leçon pour nous autres. Mais bon, avec... C'est un passage du roman que j'aime beaucoup, si un
Moi
auteur
aussi.
Peut se permettre d'aimer ce qu'il écrit, parce que il y a comme un humour sous-jacent, puis et puis beaucoup de, ouais, le mot m'échappe, beaucoup de, en tout cas, je le trouverai peut-être tout à l'heure, c'est de cynisme.
Oui,
voilà,
de cynisme.
De cynisme. Et puis le monsieur qui parle, le fameux sénateur, il est à la retraite, il est malade, il a une propension un peu exagérée pour l'alcool, et c'est sa...
C'est sa nounou noire.
Sa nounou noire qui essaye de le contrôler parce que, bon...
Ah non, mais tout ça est d'un cynisme terrible, quoi, quand on... parce qu'on imagine que c'est quand même pas mal comme ça que ça se passe, Yves Beauchemin.
Et là, c'est le lecteur de Balzac, je pense, qui apparaît chez moi. Je dis ça en toute modestie. Lecteur de Balzac.
Et, Balzac, faut-il le rappeler, a écrit toute sa vie comme un forcené parce qu'il était constamment acculé à la pauvreté. Il avait des dettes par-dessus la tête et il fallait qu'il paye. Donc, il écrivait, il était condamné à l'écriture.
Il dépensait beaucoup. Il était obligé de changer d'adresse pour échapper à ses créanciers.
Puis les femmes et tout ça.
Ah oui, c'est ça. Ben, oui,
est-ce que ça ressemble à votre vie, ça, Yves Beauchemin? Oups!
Non. Je suis un ange à côté de Balzac. Je suis un ange. Je demeure à Longueuil à la même adresse depuis quelques décennies. Mais c'est vrai que je suis un peu dépensier. Je suis un grand collectionneur de disques de musique classique. Quand je dis disques, je parle de CD. Je dois en avoir un bon 10-15 000.
Ah oui. Bon, oui, de musique classique. Oui, est-ce que vous n'écoutez que ça, Yves Beauchemin?
À peu près, oui.
À peu près.
Oui, ça fait longtemps que j'ai franchi la mesure de la pathologie. mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Et puis... voilà.
Ben, j'ignorais que nous avions un autre Claude Gingras ou un autre, monsieur Edgar...
Edgar Fruitier.
Edgar Fruitier.
Oui, oui.
En la personne d'Yves Beauchemin.
Leur collection dépasse la mienne.
À un moment donné, vous parlez de Smetana et de la Moldau dans le livre, voyez-vous.
Ah,
et le jeune, d'ailleurs, il dit « Enlevez-moi ça, ça me rend trop triste, c'est trop beau. » Ah oui, non.
Ah, je ne me rappelais pas ce passage.
Ah, ben je vous le dis, moi. Ils sont en voiture. Ils sont dans une nouvelle BMW parce que, attends, ça roule là-dedans.
Ils se dirigent vers chez le sénateur.
Exactement. D'accord. Et c'est là qu'ils écoutent. Puis je me suis dit, tiens, un amateur de musique classique. Amateur de vin aussi. Oui, il est beaucoup question de bon vin. Ça picole pas mal dans votre bouquin.
Ah oui, ça couche un peu avec... ça couche avec une certaine frénésie. Certains m'ont reproché la crudité de certains passages, mais mon Dieu,
non.
Vous savez, on n'est plus des,
des
enfants de cœur.
On n'est pas des enfants de cœur. En plus, il n'y a rien. Non, vraiment. Oui, il a la petite scène avec la petite Alma. Oui, ça c'est.
Oui,
oui, elle est surprenante quand même, celle-là. On ne s'attend pas à ça, mais.
Je pensais l'avoir modifié. J'ai parcouru mon livre ce matin parce qu'il y a une scène qui est un peu adoucie parce que là, si on tombe pas dans la vulgarité, on la frôle.
Dépasser les bornes?
Dépasser certaines bornes, oui. Les féministes ne seraient sûrement pas contentes de moi. Je pense qu'il y a eu une deuxième édition
avec des coupures?
Pas avec des coupures, avec des modifications.
Ah bon?
J'ai un peu adouci, le message reste le même. Elle a une envie folle de coucher avec Lupien.
Ben, je pense qu'elle a une envie folle de coucher avec tout ce qui bouge.
Oui, c'est ça. Oui.
Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. C'est ce qu'on croit comprendre par la suite.
Oui. Alma, c'est une... toute une gaillarde.
Yves Beauchemin, votre premier roman, c'était L'Amphiroapé.
Oui.
Et là, on commence par un gars qui se fait amphiroapé. C'est comme un leitmotiv chez vous?
Dans ces deux livres-là, il y a à peu près la même dynamique.
Oui.
Mais L'Amphiroapé, c'est plus très bon. Ça, c'était mon premier. Et puis, j'étais quand même chanceux. J'ai gagné le prix France-Québec avec ce livre. Et ça m'a évidemment beaucoup encouragé. Oui. Pour écrire Le Matou.
Oui, oui.
Alors là, Le Matou qui m'a placé sur la carte, comme on dit.
Vous en avez vendu tellement.
Oui.
Et puis le film, et puis tout ça. Mais là, je me disais en le lisant, on est très, très loin du Matou.
Oui.
Si les gens vont chercher ce bouquin en se disant, tiens, c'est du Yves Beauchemin, j'ai tellement aimé Le Matou. Ouf!
Il faut bien qu'un auteur se renouvelle.
Mais tant mieux. Est-ce que vous vous renouvelez encore? Est-ce que vous écrivez encore, Yves Beauchemin? Vous en préparez un autre? Parce qu'il a 3 ans, quoi. Il a 2 ans. Hein.
Paru en 2016.
C'est 2016, 3 ans.
Oui. Je suis en train d'en préparer un.
Ah!
Je suis en train d'en préparer un tout doucement, mais à un moment donné, je me suis dit, Yves, si tu veux écrire ton livre, il faut que tu retournes à la discipline.
Ah.
Sinon, on n'aboutit à rien.
Mais c'est ce que tu dis, tous les auteurs.
Ben, c'est parce que c'est un rude travail que d'écrire un livre. Puis comme je n'ai pas une facilité à tout casser, ça veut dire que c'est la sueur qui remplace l'agilité. Et normalement, je commence à 9 heures. C'est ce qu'il faut que je fasse. J'ouvre mon ordinateur à 9 heures, quoi qu'il arrive. Il faut que je sois en train d'écrire et je vais m'imposer cette discipline-là bientôt. Parce que sinon, je vais en parler et puis je vais ressembler à un personnage d'un roman de Balzac qui était lui sculpteur, Venceslas, je pense que c'est dans La Cousine Bette, et qui parlait de ce qu'il allait faire. Puis il en parlait avec beaucoup de talent, mais finalement, il n'a rien fait.
Il n'avait jamais rien fait.
C'est ça.
Yves Beauchemin, merci beaucoup de vous être arrêté dans notre studio ici à Canalem pour venir nous parler des Empocheurs. Les Empocheurs est donc un livre maintenant qui existe en version audio, que vous pouvez retrouver notamment sur le catalogue, sur le lien, je vais vous le redonner, c'est livreaudio.vusezvoix.com. Et c'est un régal que ce bouquin. Moi, il me reste encore 80 pages à lire. Alors, je ne peux pas vous dire comment ça finit. C'est un gros livre quand même, assez épais. Hein. Il doit y en avoir pour 7 ou 8 heures de lecture bien comme il faut.
Oui.
Merci beaucoup, Yves Beauchemin.
C'est moi qui vous remercie, ça me fait plaisir.
Au revoir.
Alice, viens-t'en, on va escalader des bonsaïs qui sont plus grands quand t'es là. Alice, viens-t'en, on va emprisonner des tornades, les figer en accalmie juste pour une heure. Le temps qu'on s'écœure de toutes nos mentries. C'est pas compliqué, fais pas la même erreur que ceux d'en avant. Va donc l'aider quand elle t'appelle pis qu'elle demande maman. Ou toi dans ta tête que ça se peut, le prince charmant. Pour le reste, fais ce que tu veux vraiment. Pour le reste, fais ce que tu veux vraiment. Alice, j'avais jamais miné des émeraudes au plus profond des yeux. Alice, j'avais jamais piné de la bullshit catch de même en étant sain sérieux. Et pour plus qu'une heure, ça c'est dans le cœur, c'est pour toute la vie. C'est pas compliqué, fais pas la même erreur que ceux d'en avant. Va donc l'aider quand elle t'appelle puis qu'elle demande maman. Ou toi dans ta tête que ça se peut, prince charmant. Pour le reste, fais ce que tu veux vraiment. Pour le reste, fais ce que tu veux vraiment. J'suis pas en train de me justifier, mais si l'envie te reprend, viens cogner, puis on prendra notre temps. Viens cogner, puis on prendra notre temps. Désolé si j'ai fucké tes plans.
Oui, Philippe Braque qui nous chantait Alice, ce qui nous amène à une nouveauté chez Audiolib. C'est sorti la semaine dernière, le 29 août, et c'est une reprise d'Alice au Pays des Merveilles. Oui, oui, le grand classique de Lewis Carroll. C'est lu par des comédiens, je peux vous citer leurs noms, Muriel Flory, Philippe Jouarris, Jean-Marie Richard et Sophie Wright. Alors, faut-il vous rappeler le thème de ce livre-là, cette petite Alice qui s'ennuie, elle est assise dans l'herbe et tout d'un coup il y a un lapin blanc qui passe, qui marmonne devant elle. Elle le poursuit jusque dans son terrier où là, elle fait une chute qui l'entraîne au centre de la Terre. Et au centre de la Terre, elle fait d'étranges rencontres. Elle rencontre un chat qui sourit, un loir qui boit du thé et une horrible reine qui est bien décidée à couper la tête de tout le monde. C'est le chef-d'œuvre incontesté de l'absurde et de l'humour loufoque. Et ça nous est donc présenté par cette kyrielle d'excellents comédiens français chez Audiolib, je vous le disais, sorti la semaine dernière. Un petit extrait, c'est parti.
D'abord, elle essaya de regarder en bas pour voir où elle allait arriver. Mais il faisait trop noir pour qu'elle pût rien distinguer. Ensuite, elle examina les parois du puits et remarqua qu'elles étaient garnies de placards et d'étagères. Par endroits, des cartes de géographie et des tableaux se trouvaient accrochés à des pitons. En passant, elle prit un pot sur une étagère. Il portait une étiquette sur laquelle on lisait « Confiture d'orange ». Mais, à la grande déception d'Alice, il était vide. Elle ne voulut pas le laisser tomber de peur de tuer quelqu'un, et elle s'arrangea pour le poser dans un placard devant lequel elle passait tout en tombant.
« Ma foi, après une chute pareille, ça me sera bien égal quand je serai à la maison de dégringoler dans l'escalier. Est-ce qu'on va me trouver courageuse ? Ma parole, même si je tombais du haut du toit, je n'en parlerai à personne. »
Supposition des plus vraisemblables, en effet. Plus bas, encore plus bas, toujours plus bas. Est-ce que cette chute ne finira jamais ?
Je me demande combien de kilomètres j'ai pu parcourir. Je ne dois pas être bien loin du centre de la Terre. Voyons, ça ferait une chute de 6 à 7 kilomètres, du moins je le crois.
Car voyez-vous, Alice avait appris en classe pas mal de choses de ce genre, et quoique le moment fût mal choisi pour faire parade de ses connaissances puisqu'il n'y avait personne pour l'écouter, c'était pourtant un bon exercice que de répéter tout cela.
Oui, ça doit être la distance exacte. Mais par exemple, je me demande à quelle latitude et à quelle longitude je me trouve.
Alice n'avait pas la moindre idée de ce qu'était la latitude, pas plus d'ailleurs que la longitude. Mais elle jugeait que c'était de très jolis mots, des mots superbes. Bientôt, elle recommença.
Je me demande si je vais traverser la Terre d'un bout à l'autre. Ce sera rudement drôle d'arriver au milieu de ces gens qui marchent la tête en bas. On les appelle les antipathes, je crois.
Cette fois, elle fut toute heureuse de ce qu'il n'y eut personne pour écouter, car il lui sembla que ce n'était pas du tout le mot qu'il fallait.
Seulement, je serai obligée de leur demander quel est le nom du pays. S'il vous plaît, madame, suis-je en Nouvelle-Zélande ou en Australie ?
Et elle essaya de faire la révérence tout en parlant. Quelle idée de faire la révérence pendant qu'on tombe dans le vide. Croyez-vous que vous en seriez capable ?
Et la dame pensera que je suis une petite fille ignorante. Non, il vaudra mieux ne rien demander. Peut-être que je verrai le nom écrit quelque part ?
Plus bas, encore plus bas, toujours plus bas. Comme il n'y avait rien d'autre à faire, Alice se remit bientôt à parler.
Je vais beaucoup manquer à Dina ce soir. J'en ai bien peur.
Dina était la chatte d'Alice.
J'espère qu'on pensera à lui donner sa soucoupe de lait à l'heure du thé. Ma chère Dina, comme je voudrais t'avoir ici avec moi, il n'y a pas de souris dans l'air, je le crains fort, mais tu pourrais attraper une chauve-souris. Et ça, vois-tu, ça ressemble beaucoup à une souris. Mais est-ce que les chats mangent les chauves-souris ? Je me le demande.
Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll, version 2019, parue chez Audiolib en audio la semaine dernière, donc le 29 août. Je voudrais remercier les invités de cette première émission au nouveau format, 90 minutes maintenant. C'est pour vous en donner encore plus plein les oreilles de ces bouquins que nous produisons ici chez Vues et Voix, mais également ailleurs. Alors merci à tous ceux qui ont participé à l'émission. Je pense à Louise Forest. Je pense bien sûr à Yves Beauchemin et à notre toute nouvelle chroniqueuse, Marie-Ève Groux. C'était Clotilde Sahé qui remercie également Maurice Bolduc en régie et qui vous remercie, vous, d'être là et d'en parler. Il faut que ça se sache, il y a une émission qui traite de livres audio et c'est des livres plein les oreilles et c'est sur Canal M, la radio de Vues et Voix. À la semaine prochaine tout le monde, bonne lecture.